Bonjour, bienvenue à Aime l'été, mercredi 27 juillet. Ici Chantal Lavoie. Aujourd'hui, on retourne à l'opéra à travers une œuvre présentée au Festival d'opéra de Québec. On s'intéresse à la littérature jeunesse, on se lave de façon plus écologique et on va se rafraîchir au cinéma tout en s'intéressant à la danse. Pour cette prochaine heure, que de belles rencontres et de beaux sujets. Voici votre rendez-vous estival, Aime l'été. Eh bien, aujourd'hui, on rencontre le compositeur Éric Champagne qui signe la partition de l'opéra Yourcenar, une île de passion présentée d'abord à Québec dans le cadre du Festival d'opéra de Québec, puis à Montréal. On va découvrir des savons écologiques qui sentent bon avec Marie-Ève Lejour, propriétaire de la savonnerie des Diligences. Nous parlerons avec Karine Paquin, auteure jeunesse très prolifique à propos de la sortie de son livre « Le poney qu'on voulait protéger », ce poney qui va se retrouver en famille d'accueil. Et enfin, notre chronique cinéma avec Camille Cusset. Il sera question du dernier film de Cédric Clapiche. Voici notre synopsis Aime l'été. Soyez des nôtres jusqu'à 13h. I know you, you're a special one. Something crazy where I see love. You fall so low but you're so high. Big dreamer, shoot for open sky. So much life in those open eyes. So much depth you look for the light. But when your wounds open, you will cry. You'll cry, oh no, and you'll question why.
Voilà,
c'était la chanteuse Sia, née le 18 décembre 1975 à Adélaïde, autrice, compositrice, interprète, réalisatrice, scénariste, actrice et productrice. Voilà, ça fait bien des titres. Elle est australienne, donc elle a tous les talents. Et en 2021, elle sortait son 9e album. Sia, qui a participé au fil de sa carrière à de nombreuses bandes originales de films, notamment elle chantera cette chanson Rainbow dans le film d'animation My Little Pony. Alors, belle façon de parler du livre jeunesse Le Poney qu'on voulait protéger. J'accueille Karine Paquin, l'autrice Karine Paquin. Bonjour.
Bonjour, belle entrée en matière.
Ben oui, il faut être concept. Hein. On essaie de lier la chanson avec le sujet. Voilà. Alors, écoutez, vous avez enseigné, vous avez été enseignante une bonne partie de votre vie, mais maintenant, vous occupez votre temps principalement à l'écriture. En fait, vous êtes très prolifique comme auteur jeunesse. Alors, vous parliez qu'en 2022, vous alliez publier votre 50e livre. Est-ce que c'est celui-ci ou il y en aura un autre?
Je crois que celui-ci a dépassé. Là. Il doit être 51, il faudrait que je raconte.
Ah, d'accord.
Ils sortent tous en même temps là, dans les saisons, donc...
ben oui, c'est vrai.
Que c'est le 50e.
Parce que vous avez fait un lancement aussi d'un autre livre un peu plus tôt ce printemps, je pense, hein, ou enfin au mois de juin, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. Ben en fait, souvent là dans le milieu littéraire, là, il y a comme des sorties assez stratégiques là pour le poney. On est comme tard en saison. On a sorti un petit livre durant l'été, c'est assez rare, mais on voulait qu'il soit sorti pour le 12 août. Donc, fait que là, c'est ça. Il est tard dans l'été, celui-là, le poney qu'on voulait protéger. Puis celui que vous parliez là plus tôt au printemps, c'était La théorie ratée de l'évolution.
C'est
un roman pour ados, celui-là.
D'accord. Donc, donc c'est publié aux éditions Michel Quintin et c'est un En fait, le sujet du fameux poney qu'on voulait protéger, en fait, ça fait un petit peu référence. Bon, on parle des familles d'accueil, au fond, là. C'est une façon de parler de cette réalité-là.
Absolument. En fait, ben, la collection La ferme de la Haute-Cour, parce que le poney vit dans une ferme qui a déjà plusieurs livres à son actif. Donc, j'exploite des sujets qui sont moins souvent exploités dans la littérature jeunesse. Puis là, celui-là, on parle exactement des familles d'accueil, des enfants qui sont placés en famille d'accueil pour différentes raisons. Mais le poney, dans son cas, lui, c'est que, bon, il n'est plus en sécurité dans sa famille et le fermier va devoir lui trouver... un nouvel enclos pour trouver d'autres animaux qui vont prendre soin de lui comme des parents.
Bon, d'accord. Alors, c'est sûr, au début, il fait des crises. Et puis, bon, après ça, à force d'amour et de patience, la truie aura vite fait de le rassurer. C'est un peu
oui.
ça, l'histoire.
Oui, bien, en fait, comme vous l'avez dit, hein, j'ai été enseignante pendant une dizaine d'années. J'ai connu toutes sortes de milieux, toutes sortes d'enfants. Vous savez, quand j'écris un livre comme celui-ci qui parle de famille DPJ, je le fais pas toute seule chez moi. Je demande l'avis de plusieurs professionnels. Donc, j'ai une pédopsychologue, j'ai une personne qui a travaillé pour la DPJ, une travailleuse sociale qui ont participé à m'aider dans l'écriture de ce projet-là pour que ça ressemble le plus possible à la réalité d'un enfant qui serait, par exemple, placé en famille d'accueil. Mm-hmm. Cela dit, chaque enfant a son histoire, a sa vie. On peut pas faire un livre qui va s'adresser, qui va représenter tout le monde, mais il y a des statistiques qui parlent, donc on regarde les statistiques, on regarde ce qui ressemble le plus aux enjeux que les enfants vont vivre, puis là ben on essaie de leur présenter un ouvrage qui va leur parler puis qui
exact.
Va leur donner des qui vont se
reconnaître, enfin oui, ils peuvent se reconnaître un peu dans ce texte, forcément. Et puis, ben, vous le faites pour toutes sortes d'autres collections, c'est-à-dire que vous avez vraiment des préoccupations, je pense même au niveau LGBTQ, vous avez aussi une série qui traite un peu de ce genre de sujet. En fait, c'est intéressant parce que quand on va sur votre site, ben, d'abord, on a tous vos séries qui sont réunies. Et puis en même temps, ben, vous ciblez très bien l'âge. Par exemple, je regarde la série Full Texto, très amusant. Oui. L'âge ciblé, 8 à 12 ans, pour des enfants qui n'aiment pas lire, qui ont des difficultés en lecture. Alors, c'est intéressant, ça?
Oui. Ben, en fait, moi, je m'adresse à... Je pense que n'importe quel auteur va s'adresser de manière à comment nous, on aimerait être interpellés. T'sais. Donc, moi, je parle à des enfants auquel je m'identifie personnellement. Donc, j'étais l'enfant qui n'aimait pas beaucoup lire, j'étais l'enfant qui avait des difficultés en lecture. Alors, j'écris des livres pour les personnes qui sont comme moi. J'étais la petite fille qui cadrait pas dans le moule petite fille à l'époque, dans les années 90.
Ouais.
Donc, c'est ça. Mes histoires s'adressent à moi.
C'est ça. Et donc, à travers toute votre expérience comme enseignante, alors évidemment, vous en avez vu, comme vous l'avez dit au début, tellement d'histoires que forcément, vous vous êtes inspirée de bien des situations, pas nécessairement d'un élève en particulier, mais du moins
Non,
toutes
jamais.
les problématiques qui peuvent survenir. Et puis, mais là, c'est votre créativité qui entre, votre travail d'autrice, enfin,
Voilà.
c'est ça, votre imagination, votre imaginaire qui fait qu'à ce moment-là, on peut quand même avoir une certaine distance par rapport à une situation, mais les enfants peuvent très bien s'y reconnaître. Alors, c'est intéressant à travers tous ces
Oui, mais
personnages.
quand j'écris une histoire, tu sais, il y a moi, il y a ma vie, il y a mon vécu, il y a mon chapeau de pédagogue aussi, il y a mon chapeau de maman, il y a mon chapeau d'auteur qui observe autour, il y a un peu de... je rajoute aussi de la fiction. Fait que c'est un mélange, hein, c'est ça, vous dites, c'est la créativité. C'est un mélange de tout ça qui fait que au final, je présente des histoires qui sont un peu inspirées de la vraie vie, un peu de choses qui se passent tout près de chez moi. Mais j'ai écrit une histoire qui s'appelle Le coq qui voulait être une poule. Et au départ, cette histoire-là, qui est dans la même collection que le poney qu'on voulait protéger, ben au départ, ça parle d'un réel coq, un animal que j'avais chez moi, dans ma cour, qui se prenait pour une poule.
Ah
Donc,
bon? Ben voilà, tout peut
c'est
nous
comme ça.
inspirer.
Oui, voilà, tout peut nous inspirer.
C'est ça. Puis vous avez en même temps beaucoup d'humour, ça aussi, c'est une force.
Ben, j'imagine, oui, en fait, c'est mon style. C'est comme ça que j'aime aborder les gens. C'est comme ça que j'aime être abordée aussi. Je trouve que l'humour est une façon de présenter toutes sortes de sujets, tout en étant agréable. Pour les enfants, c'est quelque chose de très intéressant, l'humour aussi. Puis en même temps, mon message que je veux passer, c'est que lire, ça peut être le fun. Ça peut être
C'est ça.
drôle. Puis tu peux rire aux éclats en lisant un livre.
C'est vrai.
Puis c'est... Voilà, fait que c'est un peu ça. Ce que j'ai le goût, moi, au départ, c'est de donner le goût de la lecture aux enfants, parce que j'ai mon petit chapeau de pédagogue qui sait qu'un enfant qui aime lire et qui lit beaucoup, ben ça va l'aider dans tout son cheminement scolaire, au niveau des apprentissages scolaires, mais au niveau de toute sa vie, ses connaissances, l'apprentissage de la vie en général. Un enfant qui lit, c'est un enfant qui a déjà une longueur d'avance dans la vie. Fait que c'est pour ça que j'ai le goût de donner le goût de la lecture aux enfants, aux
Ben
adolescents aussi.
c'est une merveilleuse mission, en tout cas, chose certaine. Et vous donnez, en même temps, ben vous aimez voyager en plus, vous avez une famille, vous avez des enfants, et donc vous donnez aussi le goût du voyage, le goût non seulement de la lecture, mais ça nous amène ailleurs. Et puis vos histoires aussi peuvent très bien nous amener ailleurs. Vous avez reçu quand même des prix également. Vos livres sont vendus en Europe aussi, un peu partout. Alors, certains sont devenus des best-sellers. Quand même, vous avez commencé à écrire très jeune, hein, dès l'âge de 16 ans, vous écriviez votre premier livre.
Oui, et puis c'est étonnant parce que je disais tantôt, hein, je ne suis pas celle qui aimait lire, je ne suis pas celle qui aimait... Moi, je suis dyslexique, je suis dysorthographique, donc écrire sans faire de faute, c'est vraiment pas ma force. Mais j'ai toujours aimé raconter des histoires, puis dès l'âge de 16 ans, j'avais des choses à dire. Puis, tu sais, je viens d'un milieu plutôt... ouvrier, fait que je suis pas tombée dedans quand j'étais plutôt l'espèce d'extraterrestre de la famille
Ah,
là.
d'accord,
Oui,
ouais.
vraiment.
Ben oui, ça, c'est quand même étonnant. Mais en tout cas, chose certaine, vous avez beaucoup d'imagination et votre site est très intéressant aussi. Donc, on peut très bien cibler les séries qui peuvent intéresser nos enfants selon l'âge, selon peut-être leurs préoccupations, parce qu'il y en a vraiment même, il y a l'accouchement pour tout savoir avant, enfin, même qui peut accompagner à la fois les parents et puis les enfants, bien
Absolument.
sûr. Ça peut être vraiment, il y a plein de choses. Alors, je regarde, mon Dieu, j'ai parlé de Full Texto tantôt. Il y a aussi une petite série sur, qui parle de problématiques LGBTQ. Et puis, vous avez aussi des cartes cadeaux. Ça, c'est intéressant. Alors, on peut se procurer une carte cadeau, une carte cadeau électronique. Alors, si on veut, par exemple, que quelqu'un fasse le choix lui-même, ça peut être intéressant aussi.
Absolument, mais oui, mais sur mon site Internet, là, c'est ça. Souvent, les parents disent « Ah, mais mon enfant aime pas lire », mais j'ai des livres qui s'adressent justement aux enfants qui aiment pas lire. Je suis assez confiante pour dire que d'après moi, là, si vous lui faites lire ce livre-là, ça devrait fonctionner.
Ah, Karine Paquin, vraiment très intéressant. Et puis, bon, on rappelle ce livre jeunesse, Le poney qu'on voulait protéger, aux éditions Michel Quentin. Et puis, il y a l'autre aussi qui est sorti, là, ce que vous m'avez nommé, là, c'est parce que je l'ai...
La théorie ratée de l'évolution.
Et voilà, exactement. Et puis, c'est ça. Donc, évidemment, ça parle de toutes sortes de préoccupations qui touchent les jeunes d'aujourd'hui. Alors, voilà.
Absolument.
Merci infiniment. Donc, votre site, on le trouve facilement, hein?
C'est karinepaquin.com.
C'est
la
ça.
Seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que Karine, ça s'écrit avec un C.
Voilà, Karine avec un C. Alors, merci
voilà. Bien.
Et puis, continuez votre beau travail. D'ailleurs, vous avez été en présence virtuelle auprès de je ne sais pas combien d'écoles. Vous êtes très active aussi.
Oui.
Vous visitez
oui,
virtuellement plein d'écoles.
Absolument, virtuellement, puis en présence aussi dans la région de la capitale nationale où j'habite, dans les salons du livre également. Je me déplace, je fais tous les salons du livre du Québec. C'est important pour moi d'aller rencontrer les enfants aussi, puis de leur donner le goût de l'écriture, le goût de la lecture, le goût de la curiosité aussi. Vous l'avez dit, j'ai voyagé beaucoup, puis c'est ça, leur donner le goût d'en apprendre un petit peu plus sur toute la vie.
C'est parfait. Donc, écoutez, on ira voir votre site et puis très intéressant. Merci infiniment, Karine Paquin, Karine avec un C. Au revoir.
Voilà. Bon
bye
été,
bye.
Bye bye.
Bon été à vous. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. Against the Current, qui est un groupe américain de pop-rock formé en 2011, basé dans l'État de New York. Cette pièce, Legends Never Die, qui a été composée pour le championnat du monde de League of Legends en 2017. League of Legends, qui est non seulement le jeu vidéo le plus regardé au monde, mais les championnats du monde de League of Legends ont connu un succès retentissant et ont gagné en popularité, ce qui en fait l'un des tournois les plus prestigieux et les plus regardés au monde, dépassant même la finale de la NBA. quand même, c'est spécial. On en fait un événement, on veut en faire un événement olympique potentiel. Il fait déjà partie du programme des Jeux asiatiques de 2022 qui auront lieu en septembre et octobre. Alors, c'était mon lien avec la savonnerie des diligences et des légendes, puisque oui, chaque savon de la savonnerie est associé à une légende écrite par Marie-Ève et Marie-Ève Le Jour et illustrée par l'artiste sans cravate Éric Chouteau-Tissier. Alors, j'accueille justement la propriétaire Marie-Ève Le Jour. Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors voilà, propriétaire de la savonnerie des diligences et des légendes. Mais d'abord, d'où vient ce nom?
La savonnerie des diligences, en fait, la savonnerie est née sur le chemin des diligences. Donc, très, très original, mais en fait, c'était beaucoup pour montrer notre appartenance à notre nouveau chez nous, parce que nous, on était anciennement citadin de Montréal et puis on s'était installé donc à Eastman. Le chemin des diligences, c'est un chemin patrimonial. Et puis à ce moment-là, dans les 7 premières années, on était loin de se douter qu'on allait créer ce projet-là des légendes. Fait que je pense que c'était peut-être finalement une prémonition.
Bon, hey, bon, sans doute. C'est très drôle. Ben des fois, ça, c'est des choses qui arrivent comme ça. Bon, alors voilà, c'est un déménagement comme ça dans cette région de Eastman qui a été le déclencheur un peu. Et puis, bon, en 2012, donc, vous avez... C'est en 2012, c'est ça, que vous avez créé ce projet?
Oui.
D'accord.
Un immense projet.
Et puis là, ben évidemment, vous avez eu le rêve fou d'associer chacun de vos savons à une histoire et à un personnage en plus.
Oui, exactement.
Alors, de là, le nom Savonnerie des diligences et légendes, parce qu'effectivement, il y a une histoire de légende là-dedans. Donc, c'est un projet effectivement colossal qui a pris quand même 6 mois, 2000 heures à réaliser. Et puis, ça a été vraiment tout un travail. Vous y avez mis le temps, quoi.
Absolument. Puis on était partis. En fait, c'est un projet de cœur, là. Je pense que... Moi, j'avais envie d'écrire, j'avais envie d'associer de l'art, finalement, à un produit de consommation. C'était comme, j'adore les illustrations, puis j'avais trouvé le parfait partenaire là, en Éric Chouteau pour pouvoir faire ce projet fou-là. Lui aussi a décidé d'embarquer. C'est un projet qui était assez énergivore, là, parce que, comme vous l'avez dit, ça s'est fait sur 6 mois. Chaque mois, on lui remettait 5 légendes. Il nous remettait les 5 illustrations du mois précédent, puis on a roulé comme ça jusqu'à ce que 30 personnages soient créés au mois de juillet. Puis on a finalement, même cette année-là, fait un spectacle au cabaret, le cabaret de la Marjolaine, là, de théâtre.
Oui, de Marc-André Coilier, quoi.
Oui, exactement, pour lancer ce projet-là. Puis on avait même fait des petites mises en scène. C'était vraiment... On s'est beaucoup donné.
Ah ben dites donc. Et puis en même temps, ben vous voyez grand parce que vous vous êtes donné comme mission de changer le monde, pourquoi pas? C'est sûr. Alors on part de nos savons et puis ben là on en fait quelque chose en même temps d'écologique.
Oui, mais ça a toujours été vraiment au cœur de la mission d'entreprise, au cœur de notre ADN finalement, parce qu'on a démarré la savonnerie par conscience écologique, parce que on était un peu épuisé là, de voir les produits de savon toxiques qu'il y avait autour de nous. Puis ça fait 17 ans de ça. Donc ça fait déjà un bout. Puis au fil des années, mais c'est sûr qu'on a rajouté un peu de magie avec de par les légendes, mais aussi par notre façon unique là, de traiter l'entrepreneuriat. Je dirais là, essayer d'être plus centré sur l'humain, d'être plus à l'écoute des gens qui nous entourent. Là.
C'est ça, de vos employés aussi, parce que c'est toute la relation aussi avec vos employés, avec d'abord vous distribuez dans plusieurs points de vente. Alors il y a vraiment une question de bienveillance, de transparence, enfin d'être aussi de le respect de valeurs fondamentales. Et puis alors bon, d'une part au niveau de l'environnement, mais bon parce qu'on parle vos produits, ben, il n'y a pas d'emballage ou presque. Hein? Puis en fait, vous évitez aussi le savon liquide justement pour ne pas avoir de bouteille.
Exactement. Ça, on a toujours... Il y a d'autres gens qui en font, fait que chacun trouve son créneau. Puis nous, on pense que si, oui, c'est bien beau réutiliser, récupérer, mais si on peut réduire puis ne pas consommer ces bouteilles-là, tu sais, si on regarde, nous, on fait environ 500 000 savons par année. Ben,
oh là
si
là,
on mettait
ouais.
en marché 500 000 bouteilles, tu sais, c'est ça qui se retrouverait en circulation, qu'il faudrait gérer. Fait que nous, on pense que c'est possible, souhaitable et mieux d'utiliser un savon solide là, qui ne génère aucun déchet.
C'est ça. D'ailleurs, vous avez obtenu un prix aussi pour enfin, l'entreprise Zéro Déchet. Enfin, c'est vraiment parce que c'était votre but aussi qu'il y ait le moins de déchets possible. Alors, vous avez quand même mérité des prix à ce niveau-là.
Oui, on a eu quelques reconnaissances là, au fil des années là, dont on est vraiment fiers, mais on le fait d'abord pour nous. Après ça, si on est remarqué, si on est félicité, c'est super, mais je pense que le plus important pour nous, c'est d'être cohérent et de pouvoir vraiment gérer une entreprise selon nos valeurs puis que ça fonctionne aussi.
Ouais, et je pense même que vos employés vous ont nommé enfin meilleure entreprise aussi. Enfin, vous avez été quand même on a soumis votre candidature justement comme meilleure entreprise par rapport justement à vos valeurs, à votre relation avec les employés. Alors vos employés qui sont bien traités et puis très contents d'être là avec vous. Alors c'est bien. Puis ben enfin, je parlais de prix justement, prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est entre autres. Et puis vous êtes aussi maintenant vous êtes accrédité ici, on recycle?
Oui, oui. Puis on continue à travailler très, très fort là, pour essayer de diminuer notre empreinte écologique. Notre objectif, ce serait éventuellement de devenir carboneutre. Là, donc, c'est sûr qu'on essaie d'examiner caractériser nos déchets déjà en partant, mais après ça, examiner comment on peut vraiment réduire notre empreinte écologique. Ça fait partie
de même au niveau de la fabrication, il n'y a pas de perte. C'est-à-dire que toutes vos retailles de savon sont vendues, soit à prix réduit, données. Enfin, ça va être utilisé autrement. Oui. Alors, c'est intéressant, ça. Il y a vraiment aussi toute une logique là, dans votre chaîne. Alors, c'est ça. Donc, vous avez quand même... c'est très drôle parce que vous parlez de votre équipe d'employés de 35 savonneux. Enfin, qui sont autant responsables eux-mêmes, conscients et soucieux de l'environnement.
Oui, tout à fait. C'est le nom qu'ils se sont donnés, en fait. C'est même pas mon idée. C'est eux qui ont décidé qu'ils s'appelaient les savonneux. Fait que c'est très affectueux et sympathique.
Oui, c'est ça. Parmi vos légendes, on parle du monstre du lac Orford, entre autres.
Ah oui, c'est paraît-il qu'il rôde, là. Ça fait un bout de temps qu'il roule déjà, mais cette année, on a eu trois nouvelles légendes quand même. C'est pas rien parce que ça faisait déjà un bout qu'on avait comme pas produit de nouvelles légendes. Donc, on a la Globetrotteuse, le Compteur en association avec le Festival au Fou. Les productions, ça commence à quelle heure, là? Le Festival Le Conte Orford qui a eu lieu au mois de juin.
D'accord.
Puis le Botaniste en collaboration avec le Parc Marie-Victorin aussi. Fait que c'était une bonne cuvée, mettons, 2022.
Ah, ben écoutez, Marie-Ève Lejour, vraiment une entreprise fort intéressante. Vous avez votre point de vente aussi à Eastman, hein, bien sûr, dans le village, quoi.
Oui. Oui,
bon, absolument. Et puis vous distribuez évidemment à beaucoup d'endroits. Comme vous dites, vous avez une grosse production quand même annuelle. Alors, c'est sûr qu'il y en a un petit peu partout. On peut aller sur votre site à ce moment-là pour avoir plus de détails sur les points de vente.
Exactement.
Merci infiniment. Et puis, continuez votre beau travail, Marie-Ève Lejour. C'est super chouette.
Bien, merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Vous écoutez Aime l'été. Chant des oiseaux tapageurs.
Voilà, c'était la musique de Léo Delibes, ce fameux duo des fleurs de l'opéra Lacmé, Sabine Devielle et Marianne Crebassa, deux artistes lyriques formidables qui ont sensiblement le même âge. Elles sont dans la trentaine et représentent magnifiquement la jeune garde de l'opéra. Alors, ce duo des fleurs qui faisait partie du choix musical de Jean-François Lapointe, directeur du Festival d'opéra de Québec que nous avons reçu la semaine dernière. Et bien là, j'accueille Éric Champagne, compositeur et enfin celui qui signe la musique de l'opéra Yourcenar, une île de passion, présentée d'abord à Québec dans le cadre de ce festival. Alors, ce sera demain et le 30 juillet et ce sera présenté aussi à Montréal. Bonjour, Éric.
Bonjour, bonjour.
Alors, comment allez-vous avec cette... J'imagine que vous êtes fébrile parce que c'est demain, là, que ce sera présenté.
Ah oui, extrêmement fébrile. On a eu la générale hier et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai une journée pour décompresser avant de retrouver oui. devant le public et de partager mon œuvre.
Être sans doute un peu rassuré aussi, j'imagine, parce que je doute pas que c'est vraiment formidable. Chose certaine, parce qu'on en dit beaucoup de bien. Et sachez que, ben, pour vous, c'est une aventure qui a commencé depuis longtemps.
Ben, ça fait environ 2 ans et demi que je travaille sur la partition. C'est sûr que les autrices du livret, elles ont entamé le projet en amont. Elles, ça fait encore plus longtemps. Mais oui, la durée fait en sorte que le projet, enfin, est concrétisé. Maintenant, on voit le résultat de tout ce labeur et de toutes ces réflexions pour le créer.
C'est ça. Donc, alors, on parle évidemment des deux librettistes. On parle de Marie-Claire Blais, malheureusement décédée aujourd'hui, qui n'aura pas pu profiter, enfin, de son travail pleinement. Mais enfin, et puis aussi Hélène Dorion, auteure bien connue également. Alors, les deux qui se sont réunis bien avant pour travailler sur cet immense projet. Alors, parler de cette dame, de cette femme, cette autrice, Marguerite Yourcenar, autre monument dans le domaine littéraire. Parlez-nous un petit peu de comment ce projet arrive à vous à un moment donné.
Ben, en fait, c'est Hélène qui m'a contacté en me disant « je suis en train d'écrire un opéra, j'aimerais savoir si tu serais intéressé à faire la musique ». Et ma première réaction, ben, ça a été de dire ben, « je veux lire le texte, je veux savoir dans quoi c'est pas l'histoire ». Mais il faut dire que j'avoue que Marguerite Yourcenar, j'avais lu quelques livres d'elle, mais je connaissais rien de sa vie privée. Et l'opéra est vraiment beaucoup plus axé sur son parcours de vie, sur
c'est
son
ça.
Expérience humaine.
Et sur une période, certaines périodes particulières, on en reparlera, oui, bien sûr.
Mais c'est ça, donc j'ai découvert le sujet, en fait, quand on m'a proposé le livret, puis j'y ai tout de suite ressenti beaucoup de résonance avec ma réalité, mes réflexions dans la vie, dans l'art. Il y avait quand même beaucoup de choses qui me rejoignaient, donc je me suis dit, oui, je peux mettre mon grain de sel, je peux mettre ma pierre dans l'édifice pour musicaliser ce propos et cette vie.
C'est ça, mais bon, s'attaquer à un opéra, quand même, c'était autre chose. Vous avez quand même beaucoup, vous avez beaucoup composé. Là, on peut parler que vous êtes un jeune compositeur, mais en fait, vous avez quand même pas mal de métiers maintenant. Alors donc, effectivement, vous avez quand même une vaste connaissance de la composition et tout, mais tout de même, s'attaquer à un opéra, est-ce que ça vous faisait peur un peu?
C'est l'ampleur qui me faisait peur parce que c'était pas mon premier opéra, c'est en fait mon quatrième, mais les trois premiers, c'était des opéras de chambre, de petit format. J'écris un opéra qui durait une demi-heure, là je m'attaque à un opéra de 2 heures. C'est vraiment une autre proportion, une autre échelle. Donc, ce qui m'a fait peur, c'est un peu la proportion. Puis ce qui m'a le plus fait peur en réalité, c'était la technique de travail. Parce que les deux maisons d'opéra, l'Opéra de Québec et l'Opéra de Montréal, ont établi des calendriers de répétition, d'ateliers de création en amont de la version finale. Mm-hmm. Et moi, ça a un peu bousculé mes habitudes de travail. J'avais plutôt l'habitude d'écrire directement à l'orchestre. Et là, il fallait que je prévoie la partie en voix-piano pour ces ateliers, puis que j'essaie de noter à côté tout ce que je voulais faire à l'orchestre pour pas oublier la chose. Donc, ça a été le côté un peu sortir de mes sentiers battus dans la technique de travail pour faire l'opéra. Mais au final, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que en réalité, en musique classique, on a très peu de temps pour répéter. Donc là, j'avais non seulement du temps pour répéter, mais j'avais du temps pour expérimenter, pour corriger, pour améliorer, pour travailler l'œuvre, mais vraiment à fond et la peaufiner.
Ah là là,
donc,
quand même.
Oui, j'ai
c'était
eu peur
tout un défi.
Ouais. Mais avec le regard que je pose maintenant, ça a été une expérience vraiment enrichissante.
Oh, j'imagine très bien. Et puis, bon, s'attaquer à cet auteur aussi, cette œuvre qui est très vaste, hein? Marguerite Yourcenar, quand même, je ne sais pas, j'imagine vous vous êtes imprégné un peu de ces romans à la fois historiques, ses mémoires. Il y a plein de choses dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Et puis, bon, on peut plonger dans la mythologie, la spiritualité, enfin, le tragique. Enfin, elle a un style aussi très ciselé. Puis, toute cette influence de la guerre. Grèce, de l'Orient. Enfin, j'imagine que comme compositeur, ça vous a bien influencé tout ça.
Oui, mais en fait, j'avais déjà lu. Moi, j'avais découvert Mémoire d'Adrien quand j'étais au cégep. Donc, c'était un de mes livres préférés. Donc, je l'ai relu. Puis ça tombait bien parce qu'il y en est quand même beaucoup question dans l'opéra. Mais j'ai aussi, par le fait même, exploré une grande partie de sa production que je connaissais pas, que j'ai découvert pour l'occasion. Puis, entre autres, parler pendant de l'influence du Japon pour Yourcenar, il y a l'intérêt qu'il a porté à Mishima. Et entre autres, il crée un superbe essai sur Mishima. Donc, c'est aussi j'ai pu lire. Puis, il m'a, par la bande, particulièrement influencé pour une scène de l'opéra. Donc, j'étais très heureux d'avoir, à travers l'œuvre de Yourcenar, développé des idées qui ont une répercussion dans la musique de l'opéra.
C'est ça. Puis là, c'est maintenant, on parle aussi de toute cette intimité. À la fois, il fallait que ça dégage. Là, on parle de sa vie intime quand même. Alors, c'est vraiment, tout ça prend racine dans sa vie. Bon, sa rencontre avec Grace Frick, qui va être son amoureuse pendant un certain temps. Donc, et puis ensuite de ça, à la mort de Grace, elle va aussi, elle sera avec un autre, un homme, Jerry Wilson, avec qui sera son compagnon dans la dernière partie de sa vie. Alors, c'est vraiment toute cette période-là que couvre l'opéra.
Oui, puis derrière, la période de Grace Frick est quand même longue. C'est presque 40 ans de la vie de Yourcenar qui est couverte par cette vie amoureuse. Et alors que la deuxième partie de l'opéra, c'est une période beaucoup plus condensée. C'était les 8 dernières années de sa vie, si je ne me trompe pas. Ce qui est fascinant, en fait, c'est que on a l'impression qu'il y a deux opéras en un, parce que chaque vie qu'elle a avec un compagnon ou une compagne est un monde en soi, une logique dramatique en soi. Puis en même temps, s'il y a une deuxième vie avec la mort de Grace puis l'arrivée de Jerry, mais il y a aussi beaucoup de réminiscences dans ses relations, dans la façon qu'elle gère ses déchirements entre une vie amoureuse et une vie créative. Donc c'est ce que je trouve intéressant comme ressort dramatique à présenter à travers l'opéra.
C'est ça. Donc,
en quelque part, me touchait beaucoup aussi personnellement. C'est des questions que je me pose dans ma vie personnelle. Là. Comment allier une vie création, une vie amoureuse, c'est plus complexe qu'on peut le croire.
Oui, c'est ça. Et enfin, donc, une romancière qui a marqué le monde littéraire du 20e siècle. Première femme à être élue aussi à l'Académie française.
Absolument.
C'est ça. Hein, ça a été toute une femme décédée en 1987 dans le Maine, d'ailleurs. Pas très loin d'ici.
Pas très loin d'ici, effectivement, oui. Et elle est déjà venue à Québec pour donner une conférence sur l'écologie. Ça, c'est un fait divers. À un moment donné, dans une étape de travail, on avait pensé l'inclure dans l'opéra, mais bon, ça n'a pas pu passer, parce que sinon, on aurait fait un opéra de 4 heures. Il y avait tellement d'éléments dans sa vie qu'on aurait pu utiliser, mais il a fallu faire des choix. Mais ça, c'est quand même marrant. Elle est venue à Québec, et non pas pour des activités littéraires, mais pour prononcer une conférence sur l'écologie.
C'est ça, parce qu'elle était...
C'est ça, elle avait des préoccupations très contemporaines puis qui ont encore des échos aujourd'hui. C'est ce qu'on trouve intéressant de mettre en relief dans l'opéra. Donc, c'est pas juste l'autrice, c'est pas juste l'écrivaine et son œuvre littéraire, c'est aussi sa pensée, sa vision du monde, puis comment, à travers son œuvre, elle essaie d'éclairer des enjeux qui sont encore les nôtres aujourd'hui.
C'est ça, parce qu'elle avait un engagement social, c'était une féministe aussi. Alors, c'est ça, donc, on parle, parlons de la distribution, quand même, une merveilleuse distribution.
Ouais, des chanteurs extraordinaires, je suis tellement... soyez comme compositeur, que ma musique soit entre leurs mains, ou plutôt entre leurs cordes vocales.
Oui.
Mais c'est plus précis. Mais ils sont extrêmement engagés, puis particulièrement Stéphanie Potier dans le rôle titre. Elle est tellement investie, puis je sais que non seulement elle a travaillé énormément la partition, mais elle a aussi fait beaucoup de lectures. Elle a lu Yourcenar, lu des biographies, elle a regardé des documentaires, des films, des documents d'archives. Donc elle a vraiment voulu s'imprégner de l'esprit de Yourcenar pour l'interpréter sur scène. C'était quand même costaud parce que sur l'opéra qui dure à peu près 2 heures, ben j'ai peut-être 1h58 sur scène. Donc c'est vraiment c'est olympique là, sa performance.
Ah oui. Ah oui. Et celle qui joue Grace, Kimmy McLaren, excellente aussi.
Elle est magnifique. Je l'adore. Je la connaissais pas avant, juste de réputation, donc j'ai eu la chance d'apprendre à la connaître en côtoyant pour la production.
Elle fait beaucoup de répertoire baroque, hein, je pense, cette dame.
Oui. Je pense que la seule fois que j'avais entendu un concert, c'était effectivement pour des cantates de Bach.
Ouais.
Mais en même temps, elle aussi, comme Stéphanie, elle a fait ses recherches, elle s'est imprégnée. Elle m'a fait découvrir des trucs. Elle m'a dit qu'il existait une biographie de Grace Frick qu'elle avait lue. Fait clairement aussi, je me suis senti touché de voir qu'elle était vraiment très imprégnée puis très impliquée dans la préparation du rôle. Puis elle est vraiment magnifique sur scène. Je tiens à le dire, entre autres, sa robe, là, elle est splendide dans ce costume. Je la trouve magnifique. Il n'y a pas juste la robe de magnifique.
Non, c'est ça. Hugo Laporte.
Oui, Goût, lui aussi, quelqu'un que je connaissais de réputation, mais avec qui je n'avais jamais travaillé, puis j'ai trouvé là aussi une belle voix, une belle sonorité, une grande musicalité. Et un rôle qui est quand même plus complexe au niveau émotionnel dans son temps, parce qu'il est quand même trahi par des intérêts et des passions très, très contraires et très, très troublantes. Puis je les incarne sur scène de façon splendide. Mm-hmm.
Alors, Jean-Michel Richer, Pierre Encourt, Suzanne Taffaut, je ne sais pas si je le prononce comme il faut.
Oui, c'est Taffaut.
C'est Taffaut, hein, exactement. Et puis, les violons du roi aussi, qui assurent la partie orchestrale, très important.
Oui, absolument. Puis, ils sont des musiciens exceptionnels. Donc,
ouais.
Voilà. Comme je dis, je suis chanceux, béni des dieux d'avoir une...
Oui, mais de toute façon, alors, vous êtes un compositeur de grand talent. Vous, en fait, un des compositeurs les plus en vue de votre génération, très certainement. Et puis, vous avez remporté de nombreux prix. Alors, pas étonnant et bien contente pour vous parce que je trouve que, vous méritez bien votre succès. Enfin, j'espère que ça va continuer puis que vous allez continuer d'écrire longtemps comme ça. Enfin, vous avez des projets, j'imagine. Là, ça faisait déjà un bon moment que vous travailliez là-dessus. Alors, c'est un projet qui vous a occupé depuis longtemps, mais là, j'imagine, vous êtes déjà sur d'autres coups.
Oui, puis d'autres coups qui ne sont pas dans le domaine de l'opéra, mais il y a des idées pour d'autres opéras qui se pointent à l'horizon. Alors, je reviendrai probablement dans ce beau monde.
Alors, cet opéra présenté demain et aussi le 30, mais aussi à Montréal, je pense que ça va être à la salle Pierre-Mercure, n'est-ce pas?
Exact, les 4 et 6 sous.
Éric Champagne, ça a été un plaisir de vous accueillir et ben, je vous souhaite quand même de profiter pleinement de votre succès demain.
Merci beaucoup.
De ne pas être trop nerveux, surtout.
Juste assez,
voilà.
Créateur.
Tout à fait. Et ben, bravo et puis au plaisir de découvrir vraiment votre œuvre. Merci bien.
Bonne fin de journée.
Au revoir. Son Elle danse encore, cette pièce interprétée par Scheim. Cette chanteuse, née le 28 novembre 1985, auteure, compositrice, interprète, actrice, danseuse, chorégraphe, animatrice de télévision. Alors, elle fait tout. Elle va animer notamment, elle a animé notamment l'émission Danse avec les stars. Et puis, en passant, c'est à Montréal qu'elle avait enregistré son tout premier album. Scheim, qui poursuit sa carrière en France, qui est aussi une maman depuis l'an dernier. Eh bien, on va se plonger justement dans l'univers de la danse avec Camille Cussel, notre chroniqueuse cinéma. Bonjour, Camille.
Bonjour, Chantal.
Bon, la semaine dernière, nous avons parlé du film Confession de Luc Picard, d'un tout autre univers.
Oui.
Alors, c'est toujours à l'affiche, bien sûr, puisqu'il est sorti tout récemment. Cette fois, on s'intéresse au nouveau film de Cédric Clapiche, Encore.
Oui, exactement, qui est sorti un petit peu avant en France, on s'imagine bien, le 30 mars.
Qui avait eu un gros succès, je pense.
Oui, tout à fait. Le premier week-end, on a eu plus de 250 000 entrées. Les box-office ont vraiment été bons pour ce film-là. Et au Québec, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, moi, je vais vous faire une critique de ce que j'ai vu, de ce que j'ai apprécié.
On parle du corps.
Du corps, oui, tout à fait.
C-O-R-P-S.
C'est vrai.
Ouais.
C'est pas encore, encore une fois.
Non, c'est ça. Précisons-le.
Oui. Donc, Encore est l'histoire d'Élise, qui est une danseuse classique professionnelle, qui est passionnée de ballet. Elle se blesse au cours d'une représentation, donc une chute assez impressionnante, et sa carrière est évidemment remise en question. Donc, la danseuse va entreprendre un processus de guérison, autant physique que psychologique, l'auditeur, mais non, c'est pas de la radio.
Non, c'est ça,
cinéma.
Le spectateur.
Le spectateur, oui. Merci beaucoup. Va entreprendre avec elle et va vivre avec elle très profondément. Donc, il y aura beaucoup d'éléments différents. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est la tension qu'on a dans ce milieu-là, le milieu classique qui est très exigeant justement pour le corps, le corps physique et les exigences aussi d'entraînement. De structure, c'était vraiment très intense.
Je pense qu'au début, en tout cas, c'est une scène assez impressionnante.
Exactement,
dès le début, hein.
Oui, dès le début, avec la musique évidemment, donc qui monte la tension à son paroxysme. Et ensuite, ça change un petit peu puisqu'elle va changer de style de danse. Donc, on a un contraste entre l'opéra et le milieu urbain avec des danses un petit peu plus modernes, style hip-hop, danse contemporaine. Donc là, on voyait
se décontracte
exactement.
En fait, oui, puis c'est sûr que le regard que Clapiche fait sur le monde classique, ça va quand même pas aussi loin que Black Swan, là, vous savez, ce film
tout
justement qui
fait,
présentait le côté très très
mais
rigide.
Mais ça, c'est un
militaire.
Drame complet.
C'est un drame complet, ce film-là. Tandis que dans le cas de Clapiche, c'est presque, en fait, c'est pas ça son univers.
Voilà.
Lui, il veut faire pratiquement du cinéma thérapeutique. Enfin, il faut que ça fasse du bien.
Exactement. Je pense que c'est la différence peut-être entre la comédie dramatique, puis le drame simple et pur. Mais c'est une très bonne comparaison. D'ailleurs, je vais le revoir, ce film qui était... Ça m'a marqué aussi, Black Swan.
Oui, ça, c'est avec Natalie Portman. Hein,
oui,
c'était quelque chose.
Quelle actrice.
Ah oui, c'était complètement fou, cette histoire-là. Mais ça reflétait aussi une certaine
réalité. De cet univers-là.
Ouais.
Mais oui, tout à fait.
Mais ce qui est intéressant, là, vous allez m'en parler, évidemment, parce que vous avez parlé de tension du milieu de la danse classique, mais l'actrice principale connaît bien ce milieu.
Exactement, puisque ce n'est autre que la première danseuse du ballet de l'Opéra de Paris depuis novembre 2018. Donc, elle connaît son métier elle est actrice et en même temps danseuse. Donc, elle incarne parfaitement ce personnage-là. On a plusieurs scènes de danse donc avec elle, qu'elle est toujours sur des gros plans aussi. On a un petit peu de plans sur son visage, mais beaucoup sur ses dents, sur ses mouvements, sur son corps. Et donc, on est choyé de ce côté-là. On a beaucoup de belles scènes de danse.
Oui, c'est ça, c'est merveilleux. Alors donc, une danseuse professionnelle, ça
oui.
C'était quand même un aspect qui était important pour Clapiche, je pense, que ce soit des danseurs professionnels.
Hein. Oui, ça ressort. D'ailleurs, dans la distribution, parmi la distribution, on a le danseur et chorégraphe israélien Ofesh Schefter, donc j'espère ne pas écorcher son nom, mais qui est connu.
Ça, ouais.
Oui, il est très connu dans le milieu, c'est un chorégraphe de renom, donc oui. On a aussi donc des personnes qui ne font pas du tout partie du milieu de la danse, comme Muriel Robin.
Ah, toute une comédienne, ça.
Exactement, oui, qui joue très bien, qui incarne bien son rôle aussi.
Ouais, elle va faire le rôle quoi, d'une propriétaire, d'une résidence.
D'un chalet, exactement. Ouais. Oui, une résidence pour, style chalet.
Une résidence pour artistes.
Voilà, peu, exactement. Oui, elle aime voir les artistes en production. Elle se décrit comme n'en étant pas une, mais... point d'interrogation. Et donc, elle voit les artistes se produire devant elle, puis elle apprécie, puis ils apprécient aussi.
Ah ouais. Donc, c'est l'histoire d'une vie. Oui. C'est l'histoire, en même temps, d'un dépassement, enfin, de résilience aussi.
Exactement. C'est le mot. C'est vraiment le mot, puisque elle va passer par cette blessure. Donc, une grande remise en question. Et il y a un message d'espoir à la fin. Un message d'espoir et puis de... J'en dis pas plus, d'espoir.
Ouais,
disons.
D'espoir. Ben, c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu ça quand je disais que Clapiche, lui, c'est presque une filmographie thérapeutique. Faut que ça finisse par faire du bien.
Oui.
Faut que ça apporte quelque chose. Contrairement au film de Black Swan qui, je veux dire, là, c'était plus dur.
Oui, puis c'est certainement pour montrer une autre facette, comme vous disiez, hein, de la réalité de ce milieu-là et aussi de la vie. Mais bon, ça n'apporte pas toujours ce côté guérisseur et thérapeutique.
C'est ça. Puis bon, ça prend le côté lumineux et Clapiche est très
voilà,
bon là-dedans. Du côté, c'est vrai que ça a eu du succès en France. Bon, il y a peut-être eu quelques critiques plus négatives, mais enfin, c'est ça. Il reste que c'est ça. Donc, Black Swan, on était beaucoup plus dans l'idée de la souffrance, de la rivalité.
Oui,
et là, on
ici,
est beaucoup plus dans la lumière.
Exactement.
Ouais.
Alors, la semaine dernière, on a parlé du film Confession. Par contre, lui, au box-office québécois, le week-end dernier, il est sorti quand même quatrième. Donc, il est au quatrième du classement. Peut-être que ça va monter, mais ce n'est pas le cas de encore.
Ah, d'accord. Bon, on va suivre ça de près. En passant, Cédric Clapiche, j'avais juste une petite anecdote, comme ça. Il a connu quand même un parcours pas similaire, mais semblable, en ce sens qu'il a abandonné, vous savez, une carrière olympique quand il avait 18 ans. Oui, il faisait, je pense, je cherche là ce qu'il faisait comme discipline.
Sportive.
Enfin, comme discipline sportive, mais il a dû faire du saut à la perche. Clapiche faisait du saut à la perche. Et voilà, de 11 à 18 ans. Et il a dû arrêter de faire du sport. Donc, sa vie a changé finalement. Mais comme quoi, on peut déplacer nos rêves.
Exactement. Ah, c'est ce qu'il illustre alors.
C'est un peu ce qu'il illustre, oui, lui-même ayant connu quelque chose d'un peu semblable. Dans le fond, son expérience lui a porté fruit. Alors, c'est un peu ce qu'il fait, d'ailleurs, à travers son cinéma. Il dit, bon, l'une des fonctions du cinéma est de fabriquer, non pas du bonheur, mais un espoir, comme vous le dites si bien, comme vous le dites, Camille. Alors, un espoir qu'on puisse traverser les épreuves et s'en sortir un peu mieux. Il dit, je trouve que la vie est dure. Le cinéma est fait pour nous aider à la traverser. C'est pas beau, ça?
Merci, Clapiche, vraiment.
Voilà, donc, c'est tout pour aujourd'hui, Camille. Et puis, merci d'être venue nous parler de ce film qui est à l'affiche présentement dans tous les cinémas au Québec. Alors, et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre film ou
Exactement.
Quelque chose du genre. Merci. Et puis, tout le monde, je vous souhaite une bonne journée. Bon après-midi. On se retrouve demain déjà jeudi. Et ce sera entre midi et 13h. Aime l'été. Alors, soyez des nôtres, bien sûr. Ici Chantal Lavoie. Au revoir.